Prenons l'exemple d'une pièce qui est parfaitement rangée.
Ouais, le truc qui n'arrive jamais chez moi, mais d'accord.
Voilà. Au fil des jours, sans même qu'on y fasse vraiment attention, le désordre s'y installe. Des papiers s'empilent, il y a une fine couche de poussière qui recouvre les meubles. C'est une loi fondamentale de la physique, en fait.
La fameuse entropie.
Exactement. L'entropie, c'est la tendance naturelle de tout système dans l'univers à glisser vers le désordre, la dégradation et la perte d'énergie.
Et c'est une force invisible, mais qui représente un mouvement inéluctable vers l'effacement.
C'est complètement vertigineux parce que ça s'applique absolument à toutes les échelles du réel, quoi. Aux étoiles gigantesques qui finissent par s'éteindre.
À nos propres cellules qui vieillissent, ouais.
Tout à fait. Mais aussi à des choses beaucoup plus impalpables, comme nos sociétés, la solidité de nos objets du quotidien. Et, de manière encore plus poignante, la clarté de nos mémoires. Tout ce qui est structuré finit par se désagréger.
Et justement, notre exploration d'aujourd'hui, elle nous emmène dans les coulisses d'un travail qui a littéralement décidé de déclarer la guerre à cette force inéluctable.
Une vraie guerre, ouais.
On plonge tête la première dans un document d'une richesse incroyable aujourd'hui. C'est un portfolio qui est extrêmement dense, visuellement très percutant. Il est sobrement intitulé « Portfolio Négantropie ».
Un titre qui annonce la couleur.
Carrément. C'est en gros le carnet de bord officiel, la charpente philosophique et créative d'une artiste contemporaine, Sylvie Chepens. Elle opère depuis son atelier qui est situé au Kremlin-Bicêtre. Et l'enjeu, c'est pas juste de faire une petite visite de galerie, hein.
Non, c'est le décodage d'une véritable mission de survie. Une mission qui s'articule autour de ce concept scientifique très précis qu'elle mentionne dans le titre, la néganotropie.
La fameuse néganentropie, ouais.
C'est le miroir inversé de l'effacement dont on parlait à l'instant avec ta tasse de café. Si l'entropie, c'est le glissement passif vers la désintégration et le chaos, la néganentropie, bah, c'est l'effort actif, l'effort acharné, presque viscéral, pour créer de l'ordre, de la structure et de la vitalité à partir de ce chaos.
C'est l'instinct de conservation humain, mais poussé à un niveau de paroxysme créatif.
Exactement.
Et la manière dont l'artiste aborde ce concept, ça donne vraiment l'impression d'assister à l'émergence d'un super pouvoir, quoi. C'est comme si elle utilisait la matière brute et une sorte de joie viscérale pour rembobiner le film de la décadence.
Là où le temps détruit méthodiquement, elle intervient pour reconstruire.
Voilà. Mais avant de disséquer les mécanismes, enfin les techniques physiques et chimiques qu'elle déploie dans son atelier, il y a un préalable essentiel. Faut comprendre le moteur intime de cette démarche. Pourquoi elle ressent ce besoin brûlant d'affronter l'entropie ?
Bah, le portfolio, il nous fournit une clé de lecture immédiate, dès les premières pages en fait. Il y a une déclaration fondatrice qui sous-tend la totalité de sa production. L'artiste pose ce constat et là je la cite, « Le temps transforme tout en poussière, en oubli ou en déchets. Mon travail consiste à redonner un sens à cette matière. » Une dignité.
Une dignité. Le mot est fort.
Ouais, le poids de cette phrase repose vraiment sur ce terme, dignité. L'objectif dépasse très largement la simple recherche esthétique ou la volonté de faire joli avec des matériaux abîmés, quoi. C'est un acte de résistance philosophique frontale contre l'effacement des traces humaines.
Il y a d'ailleurs une œuvre spécifique dans les premières pages du document qui matérialise super bien cette promesse. Elle s'intitule « Merci » et elle date de 2025.
Une pièce assez imposante, d'ailleurs.
C'est 1,50 m sur 1,10 m. Mais c'est surtout en observant la texture qu'on comprend le propos. Le support, c'est pas une toile de lin traditionnelle. Le fond de l'œuvre est constitué de lourdes plaques de plâtre récupérées sur des chantiers.
Du plâtre brut ?
C'est ça. Dessus, elle a mis des coulées d'acrylique avec des couleurs qui sont presque agressives par leur vitalité. Des roses fuchsia très saturées, des jaunes électriques, des violets super denses. Et pris au piège dans cette peinture fraîche, y a des lambeaux de journaux qui datent de 1922.
Centenaires, les journaux.
Ouais, qu'elle a trouvé dans un vide-grenier. On peut voir le papier jauni, poreux, avec cette vieille typographie d'époque qui transparaît à travers les pigments.
Et le choc visuel, il vient vraiment de cette collision à la fois temporelle et matérielle. D'un côté, t'as le plâtre de construction. C'est un matériau utilitaire, lourd, qui a été fabriqué pour isoler, pour cacher la structure d'une pièce, et qui, une fois son usage terminé,
a été arraché et jeté au gravat.
Voilà, c'est un déchet. Et de l'autre côté, on a ces fragments de presse centenaires. L'artiste explique qu'elle perçoit ces journaux non pas comme du simple papier, mais vraiment comme des réservoirs d'énergie et de mémoire collective.
Ouais.
En noyant ce papier fragile de 1922 dans de l'acrylique fuchsia sur un morceau de mur abandonné, elle crée une véritable capsule temporelle.
Alors, j'entends bien l'intention poétique, hein, mais il y a une objection qui vient un peu immédiatement à l'esprit quand on regarde ça.
Je t'écoute.
prendre de vieilles plaques de plâtre, récupérer des journaux anciens, pour en faire une composition murale. Esthétiquement, c'est très beau, mais est-ce que c'est pas, au fond, exactement ce qu'on voit pulluler aujourd'hui sous l'étiquette de l'upcycling ?
Ah, la fameuse tendance récup.
Ben oui, on réutilise des objets anciens pour décorer. La frontière entre un projet de recyclage très pointu et cette idée super noble de redonner de la dignité, elle me semble quand même un peu poreuse. En quoi c'est fondamentalement différent ?
C'est une super question. La distinction, elle est peut-être subtile sur la forme, mais elle est radicale sur le fond. En fait, le recyclage ou le upcycling, ça obéit à une logique de fonction ou de décoration. Prendre une vieille palette en bois pour la poncer et en faire une table basse, c'est intelligent, ça prolonge l'usage d'un matériau.
Mais ça reste une table basse.
Voilà, la palette devient juste un meuble fonctionnel. L'histoire de la palette n'a absolument aucune importance. La démarche de Sylvie, elle relève au contraire du sauvetage mémoriel d'urgence.
Sauvetage mémoriel, ouais.
Ces journaux de 1922, ils racontent les inquiétudes politiques de l'époque, le prix du pain, les faits divers de gens qui ont disparu depuis bien longtemps. En les intégrant, elle recycle pas la cellulose du papier. Elle fige l'empreinte humaine. Elle saisit cette mémoire à la seconde exacte où l'entropie allait la faire basculer dans la destruction pure et simple. C'est ça redonner de la dignité.
C'est refuser que la trace d'une vie ne soit dégradée au statut de déchet, en fait.
Exactement.
On pourrait presque voir ça comme l'art utilisé comme un gilet de sauvetage contre l'amnésie totale.
C'est une belle image.
Et pour opérer ce sauvetage physique et mémoriel, le document détaille une méthode de travail hyper rigoureuse, c'est presque clinique. Elle s'appuie sur ce qu'elle nomme les trois piliers de la résistance créative. Le tout premier pilier de cette méthode pour créer de l'ordre, il s'appelle le chaos.
C'est génial parce que le paradoxe est totalement assumé. On pourrait légitimement s'attendre à ce qu'une démarche nédrontropique consiste à tout lisser, à organiser sagement les éléments, à réparer proprement.
Ben oui, pour lutter contre le désordre, on range.
Eh ben non, l'artiste fait l'inverse, elle embrasse la violence brute du désordre. Et les toiles acryliques de grand format documentées dans le portfolio en sont la preuve parfaite. Je pense notamment à la série qui comprend Fulgurance de 1,60 m par 1,20 m ou l'œuvre Faille chromatique de 2025.
Et sur Faille chromatique, l'explication technique de son processus, elle est fascinante. Elle utilise l'acrylique, l'encre, les pigments classiques, bon, très bien, mais elle ajoute un élément hyper inattendu. Du bicarbonate.
Du bicarbonate de soude, ouais.
Il s'agit plus du tout de peindre sagement au pinceau, là. Quand le bicarbonate entre en contact avec les liants humides de la peinture, ça provoque une véritable réaction chimique directement sur la toile.
Ça se met à mousser.
Ouais, ça mousse, ça fait des bulles, avant de se figer en créant des cratères et des aspérités poreuses. Visuellement, on observe de grandes éclaboussures sombres, des noirs profonds, des bleus nuits qui semblent avoir explosé de l'intérieur, traversées de failles jaunes. L'œuvre, elle ressemble à la photographie d'une réaction en chaîne instable qui aurait été capturée au moment exact où la matière durcit.
L'utilisation de ce bicarbonate, ça démontre bien que l'artiste ne cherche pas à illustrer le chaos, elle le génère physiquement. Elle provoque des accidents chimiques qui sont contrôlés. Et l'explication de ce premier pilier, elle réside dans cette affirmation tirée de ses notes « Je ne range pas le désordre, je le transmute pour lui redonner vie ».
La transmutation.
Ouais. L'acte de ranger, ça implique de dissimuler, de cacher la poussière sous le tapis pour donner une vague illusion de propreté. La transmutation, elle, utilise l'énergie cinétique de la destruction pour forcer l'apparition d'une forme nouvelle.
La notion d'alchimie est souvent un peu galvaudée, mais ici c'est vraiment le terme le plus adéquat, quoi. Sauf qu'au lieu de chercher la formule magique pour changer le plomb en or, elle cherche à armer la tempête.
C'est tout à fait ça.
Elle nie pas l'existence du chaos. Elle capte la violence de l'explosion et par ce fameux processus chimique, elle la fige pour s'en servir de fondation. Mais on s'aperçoit vite que figer une explosion, ça suffit pas à ramener un système à la vie. Une fois que l'accident est capturé, il reste inerte. Il n'y a pas de moteur.
Il manque l'étincelle.
Exactement. Et c'est précisément ce vide qu'elle vient combler avec son deuxième pilier conceptuel qui s'appelle l'énergie.
Et ce passage du chaos figé à l'énergie vitale, il est illustré par une œuvre majeure du portfolio qui s'intitule « Dilution ». C'est une pièce massive, un carré parfait de 2 mètres sur 2, conçu avec des pigments, de la résine et de la colle. Mais le truc fou, c'est que le regard est immédiatement attiré au-delà de la toile elle-même.
Parce que « Dilution », ça dépasse le statut de simple peinture. C'est carrément une installation en 3 dimensions, La toile peinte, elle forme un fond marin avec des courants abyssaux verts et bleus très profonds qui sont figés sous la résine. Et au-dessus de cette surface, accrochée au plafond, il y a une structure en suspension qui vient surplomber le tableau. De ce cadre pendant de multiples petites fioles en verre qui sont attachées par des fils invisibles. À l'intérieur de ces fioles, il y a des liquides avec des teintes vibrantes. L'impression visuelle, elle est hyper frappante, on dirait une réserve de potions. Des gouttes de carburant vital qui flottent en apesanteur et qui sont prêtes à tomber pour nourrir la toile juste en dessous.
Le texte qui accompagne Dilution précise bien l'intention. Elle dit « Pour créer de l'énergie là où elle s'est éteinte, il faut redonner du mouvement, recharger les systèmes inertes. » Et la puissance de cette phrase, elle réside dans son application hors du cadre de l'atelier, en fait.
C'est-à-dire ?
Ben, ces systèmes inertes qu'elle cherche à recharger, ce sont pas seulement les plaques de plâtre ou la toile, c'est la sphère humaine. C'est notre propre apathie, tu vois, notre capacité d'attention qui est complètement fragmentée par les flux numériques constants, notre forme de résignation face à la complexité du monde.
Ah, c'est comme si en fait notre cerveau cognitif était en état de mort clinique partielle face au flot d'informations et que cette installation, elle intervenait un peu comme un défibrillateur.
Le mot est juste, un défibrillateur visuel.
L'accumulation de la résine, le vertige des abysses, la menace de ces fioles de couleurs qui sont suspendues au-dessus du vide, tout ça, ça provoque un vrai choc électrique visuel. Les synapses, elles sont forcées de se reconnecter. L'art ici, il ne propose pas une contemplation paisible, il exige une réanimation de l'attention de la personne qui regarde.
Et cette notion de réanimation, ça nous mène tout droit au troisième et dernier pilier de sa méthode, qui est la survie. C'est l'objectif final. Et de manière très surprenante, pour illustrer cet instinct de survie organique, l'artiste, elle opère un virage technologique majeur.
Le sang de la vigne et les raisons de la colère.
Un titre très romanesque.
Grave ! Et le protocole de création de cette pièce primée, il prend la forme d'un millefeuille assez complexe. Elle génère d'abord une image par intelligence artificielle.
L'IA, carrément.
Ouais, avec de la peinture abstraite et de la photographie. Le résultat, c'est une vision incandescente. On y voit un vignoble qui est baigné dans une lumière un peu de fin du monde, avec des teintes dorées et orangées presque toxiques, et par-dessus, des violents coups de pinceau abstraits, des traces de pigments magenta et rose qui viennent lacérer l'image numérique. L'artiste, elle précise qu'elle mène une réflexion profonde sur nos outils technologiques.
C'est très fort.
Mais là, il y a un obstacle logique qui me saute aux yeux, une véritable dissonance cognitive, quoi. On aborde le thème de la survie, qui est ancré dans la sève, le travail manuel, les caprices de la météo, et l'outil principal utilisé, c'est une intelligence artificielle.
C'est troublant, ouais.
L'IA, elle est perçue à bien des égards comme l'antimatière absolue. C'est un code désincarné, froid, calculatoire, souvent accusé de couper l'humain de sa réalité charnelle. Comment on peut utiliser l'outil le plus synthétique de notre époque pour illustrer la chaleur de la survie organique ?
Le paradoxe, il est évident, mais il constitue vraiment le cœur même de sa démarche. L'artiste, elle confronte de front l'outil technologique et perçu comme l'agent d'entropie par excellence de notre siècle. Celui qui génère de la donnée jetable, qui homogénéise l'imaginaire, qui prétend remplacer le geste humain.
Ouais, la machine qui avale tout.
C'est ça. Et son approche, elle consiste à pirater cet outil. Elle oblige l'algorithme à recracher une vision numérique de la nature qui est intrinsèquement froide, puis elle vient la violenter, la lacérer avec de la vraie matière, du vrai pigment qui accroche la lumière, qui a une épaisseur, une odeur.
C'est une réappropriation.
Totalement. Elle soumet la technologie à son instinct de survie. L'outil d'aliénation est retourné pour devenir l'arme d'une poésie très agressive.
Donc la technologie, c'est plus une fin en soi, c'est une matière première, au même titre que la plaque de plâtre abandonnée, quoi, elle la digère.
Voilà.
Et cette volonté d'engloutir les éléments pour les forcer à vivre, ça nous pousse vers la troisième grande étape de ce portfolio. À force de manipuler le chaos, de suspendre des fioles, de pirater l'IA, la surface plane d'un tableau, même de 2 mètres par 2, ça devient une contrainte. L'évolution logique de ce combat, c'est carrément l'invasion de l'espace physique en 3 dimensions.
Le passage vers l'installation spatiale, il s'impose vraiment comme une nécessité pour, je cite à nouveau, « recharger les systèmes inertes ». Pour ce choc fonctionne sur l'humain, faut que l'humain puisse physiquement entrer dans l'œuvre.
Rentrer dedans, ouais.
Le portfolio détaille l'installation Ombre et Lumière, qui a été réalisée pour l'ECAM en 2026. L'échelle, elle est architecturale. L'œuvre, elle se compose de 5 panneaux géants.
Mais c'est l'équivalent de murs porteurs, c'est immense!
Et la composition matérielle de ces panneaux, elle est ouf! On y trouve du métal de récupération, marié à la fragilité du papier et saturé de pigments colorés.
Mais le truc, c'est que la dimension la plus immersive, elle n'est pas uniquement visuelle. Non, en effet. Chaque section de l'œuvre est reliée à un environnement sonore. Une étiquette raconte une histoire précise qui est associée à la diffusion d'un podcast et d'une vidéo. On imagine un peu l'expérience, se tenir face à 5 mètres, le regard happé par les couleurs, pendant qu'une voix humaine résonne dans l'espace pour raconter l'histoire de la matière.
Ça doit être incroyable.
En utilisant des éléments recyclés et des souvenirs naturels, l'œuvre transcende le statut d'objet pour devenir un organisme vivant.
L'utilisation du terme « organisme vivant », c'est vraiment le point d'aboutissement de la négotropie. Un organisme, c'est un système ouvert qui respire, qui interagit, quoi. L'alliage du métal industriel, qui est dur et froid, avec la chaleur d'une voix humaine enregistrée dans le podcast, ça crée un écosystème hybride.
Mais la question qui se pose alors, c'est de savoir d'où vient le pouls de cet organisme. Si on a éteint le podcast, si la salle est vide, la structure métallique, aussi monumentale soit-elle, elle redevient inerte.
L'organisme meurt.
C'est donc la présence du public qui insuffle la vie à la structure. Le public, il devient l'oxygène qui permet à l'œuvre de résister à sa propre dégradation.
Le spectateur est la condition absolue, la condition sine qua non de la survie de l'installation. Cette mise en tension entre la fragilité et la résistance, elle culmine dans une autre œuvre spatiale, Le Jardin des Femmes, qui date également de 2026. La dynamique, elle y est poussée à son extrême organique.
Visuellement, la description de ce jardin, ça tient de la poésie pure. La structure, elle se présente comme une forêt de tubes cylindriques qui sont dressés vers le ciel. Et ces piliers, ils sont recouverts de projections de pigments extrêmement dynamiques, des jets d'énergie vert, violet, jaune.
Et le détail au sommet ?
Ouais, posé en équilibre au sommet de chacun de ces tubes, on trouve une véritable feuille de lotus, immense mais entièrement séchée. Ces grandes feuilles nervurées, elles agissent comme des ombrelles naturelles, cabossées par les intempéries, figées dans un état de sécheresse absolue. L'artiste, elle a qualifié l'ensemble de « symbole de résistance poétique ».
Et le choix matériel de la feuille de lotus séchée, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette œuvre. Le lotus, il porte en lui, à la fois culturellement et biologiquement, la notion de résilience, hein, car la fleur éclot au-dessus des eaux boueuses.
Ouais, c'est les symboles classiques.
Mais l'exposer dans son état sec, ça change tout. La feuille morte, elle est d'une vulnérabilité absolue. Elle est craquante, elle est prête à se désintégrer en poussière au moindre courant d'air un peu trop violent. Et pourtant, cette fragilité extrême, elle est soutenue, surélevée, maintenue hors de portée de l'effacement par ces piliers d'énergie colorée.
C'est beau.
C'est la métaphore matérielle parfaite de sa démarche. La négatropie, c'est pas nier la mort de la feuille de lotus, c'est d'utiliser l'énergie créative pour maintenir cette feuille dressée avec majesté le plus longtemps possible avant qu'elle ne retourne à la poussière.
Et ce message, qui est ancré dans l'expérience physique de la matière, il résonne de façon hyper intime pour nous. La lecture de ce document, de ces méthodes de survie, c'est pas juste une leçon de critique d'art, c'est un mode d'emploi.
Un mode d'emploi qui est applicable à nos propres systèmes qui se dégradent. L'entropie personnelle, c'est une expérience quotidienne, en fait. La routine qui use les enthousiasmes, la fatigue nerveuse, les informations qui s'accumulent sans aucun sens, les relations qu'on oublie d'entretenir.
Tout s'effrite, quoi.
Voilà. Et la réaction humaine par défaut face à cette usure, c'est souvent la fatigue, la fuite ou l'illusion du contrôle, le fait de tout vouloir ranger. Récupérer ses propres journaux intimes froissés, sa propre fatigue, son désordre et appliquer une friction créative pour les transmuter.
Ne pas fuir l'usure, mais en faire un carburant. Cette philosophie, elle forme une boucle parfaite. Mais il est impossible de refermer ce portfolio sans s'attarder sur un détail troublant. Il y a un truc à la toute fin du document.
Ah oui, la fameuse note.
Presque caché en note de bas de page, figure une mention sous l'intitulé « Projet en cours ». Et il y est simplement écrit « Dialogue autour de l'émotion entre l'IAGE et l'artiste ».
Et la mention de ce projet, ça ouvre un champ de réflexion qui est juste abyssal, surtout après avoir décortiqué les mécanismes de survie de la feuille de lotus ou l'importance du sauvetage de la mémoire humaine dont on parlait au début.
Carrément. Parce que la mission détaillée sur toutes ces pages, c'est l'urgence de combattre la finitude. C'est la certitude que le plâtre va s'effriter, que le journal de 1922 va disparaître, et que c'est précisément cette vulnérabilité au temps qui donne de la valeur, de la joie et de la dignité à la résistance.
Elle se bat parce qu'elle sait qu'elle peut perdre.
Exactement. Mais l'intelligence artificielle, elle opère dans une dimension où l'entropie n'existe pas. La machine, elle possède une mémoire qui est parfaitement intacte, infinie. L'algorithme, il ressent ni la fatigue de la matière, ni l'angoisse de la disparition, ni la joie féroce de survivre un jour de plus.
Et donc la confrontation, elle s'annonce vertigineuse. Comment tu peux instaurer un dialogue émotionnel entre la créatrice humaine, dont l'art est entièrement motivé par cette peur viscérale de l'effacement, et une entité synthétique pour laquelle l'effacement n'est une notion scientifiquement étrangère?
C'est ça. Est-ce qu'une machine immortelle peut seulement comprendre l'urgence de créer l'art? Si l'outil n'a jamais expérimenté le froid, la perte de la mémoire ou la poussière, sa contribution à ce dialogue artistique, est-ce que ce sera l'aboutissement parfait de la résistance ou est-ce que ça révélera au contraire le vide d'un système incapable de comprendre la valeur de la vie?
Le mystère de ce dialogue reste entier pour l'instant.
C'est vraiment l'illustration d'une force universelle qui travaille à dégrader le monde. La véritable question devient alors, quelle énergie faut-il insuffler et quels accidents chimiques faut-il provoquer, à notre propre échelle, pour inverser cette tendance? C'est le défi silencieux laissé sur la table par ce portfolio.